Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Aujourd'hui, on discute de comment débuter les relations non-exclusives. Sortir de l'exclusivité, c'est une véritable exploration émotionnelle. C'est relever le défi des premières fois. C'est la première fois qu'on se laisse charmer par quelqu'un d'autre que sa partenaire. La première fois que son amoureux embrasse quelqu'un d'autre. La première fois qu'on rencontre une méta. La première fois qu'on présente une deuxième relation à sa famille. La première fois qu'on est en présence de deux partenaires à une même soirée. Ces premières fois sont merveilleuses, parfois terrifiantes, toujours déstabilisantes. Comment gérer tout ça? Quels pièges sont à éviter? Notre épisode du jour est découpé en 5 parties. Si vous avez un lecteur de podcast qui gère les chapitres, vous pouvez les voir listés. En gros, nos parties répondent à ces questions. Question 1, que faut-il savoir avant toute chose? Question 2, comment mettre en place des règles? Question 3, comment se comprendre? 4, quelles particularités viennent avec le polyamour? Car c'est un modèle finalement assez différent du couple ouvert, par exemple. Question 5, comment s'entourer? Parce que la société est très normée et qu'il peut être difficile de trouver des gens avec qui échanger sur le sujet des relations non exclusives. Peut-être que ces questions vous semblent ridiculement simples. Pourtant, on a tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas tout traiter. Comme d'habitude, on va dire ce qu'on peut et on développera davantage dans des épisodes moins généralistes. Vous êtes prêtes ?
Alors, la première question que je vous pose, Adèle et Alexia, c'est qu'est-ce que, selon vous, il faut savoir avant toute chose?
Pour moi, ce qu'il faut savoir vraiment dès le début, c'est que c'est une très belle expérience de vie, c'est une véritable exploration, mais qui vient avec son lot de difficultés. On grandit dans un milieu qui est complètement monogame, qui nous donne une version de l'amour qui est acceptable, mais qui est vraiment particulière, selon laquelle il y a une personne qui a toute notre attention, tout notre amour, qui passe en priorité sur le reste de notre vie. Donc il y a un véritable amour à deux qui est très fort et fusionnel. Et les relations non exclusives, c'est pas ça, ça sort de ce modèle. Sauf que le modèle monogame est vraiment ancré en nous, et quand on va voir que notre partenaire développe une relation avec quelqu'un d'autre, on va avoir éventuellement la sensation qu'il nous aime plus. Et c'est pas le cas, c'est juste que on est éduqué à penser ça, quoi. Et donc ces difficultés, on va les confronter les unes après les autres, et éventuellement il y aura des moments où ça sera trop difficile, et où on sera potentiellement obligé de faire peut-être un pas en arrière. Moi ça m'est arrivé avec un partenaire. J'étais à l'aise avec le fait qu'il dorme avec d'autres partenaires dans notre lit. Et puis à un moment, c'était trop difficile et j'ai eu besoin, parce que j'étais en période d'insécurité, etc., de faire un pas en arrière là-dessus. Et durant un temps, cette chose-là ne se fasse plus. Et puis après, j'allais mieux et on a pu réavancer, quoi. Voilà, donc soyez prêts et prêtes.
Oui, d'une manière générale, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous voulez peut-être vous lancer ou alors que vous connaissez des gens autour de vous qui veulent se lancer et qui savent pas forcément comment s'y prendre. Les situations classiques dans lesquelles les gens se posent ces questions, en tout cas moi dans lesquelles je me les suis posées peut-être, c'était soit parce que j'étais seule et que j'avais un petit peu des questionnements sur ma manière de relationner et que j'avais envie de me lancer dans autre chose. Une autre situation que j'ai vue, qui était par exemple la situation de Sacha et Alexia, c'est les deux personnes étaient d'accord pour ouvrir leur couple et être amenées à relationner d'une manière différente. Enfin, et ça c'est la situation un petit peu de laquelle il faut se méfier selon moi, c'est parce qu'on ne se sent pas bien dans son couple. Et en fait, il y a un événement qui a été problématique, par exemple une tromperie. Et on se dit, du coup, il faut le solutionner, et donc on va ouvrir le couple. Ce qu'Alexia a dit, c'est que ouvrir son couple et relationner d'une manière non monogame, c'est pas évident. Et du coup, partir d'un point de départ qui est un peu compliqué, dans lequel on ne se sent pas nécessairement bien, ça va ajouter, selon moi, des difficultés. Donc il vaut mieux être dans une situation où on fait confiance à son partenaire, où on a envie d'y aller, ou alors où on va s'ouvrir à d'autres nouvelles relations dans le but de se sentir bien, plus que de partir d'une situation qui est problématique et qui va être probablement plus douloureuse et plus compliquée et où on va se heurter mutuellement. Donc voilà, faites attention à ce point-là, ce serait mon conseil à vous qui vous lancez.
Et particulièrement si vous êtes dans la situation où vous ouvrez votre couple, souvent il va y avoir une notion de hiérarchie qui peut être là soit au début de votre aventure, soit qui peut rester tout du long, c'est une option comme une autre. Et cette hiérarchie va dire que votre couple initial, il va être plus important, il va passer en priorité devant les autres partenaires que vous pourrez avoir, qui seront des partenaires d'un soir ou plus réguliers, etc. Et le danger que je veux pointer là-dessus, c'est que les autres gens avec qui vous allez relationner, même s'ils sont moins importants, même si vous leur avez annoncé dès le début qu'ils seront moins importants et qu'ils peut-être seront sur un siège éjectable et que dès qu'il y aura un problème, vous les rayerez de votre vie, ça reste des humains et ça reste des gens avec des sentiments et qu'il ne faut pas se dire que puisque c'est clair dès le début que c'est des gens qui vont avoir moins de place dans votre vie et auxquels vous allez faire moins de concessions, que il faut les négliger complètement et se dire peu importe, ces gens-là, on sait qu'ils n'ont pas d'importance.
Ouais, j'espère que il y en a pas beaucoup d'entre vous qui se disent que les autres n'ont pas beaucoup d'importance. Mais quand bien même c'est quelque chose que vous considérez et que vous voulez être gentil avec tout le monde, faites attention à ce que vous dites aux nouvelles personnes avec qui vous relationnez. C'est-à-dire, leur dites pas « je suis en polyamour et du coup, tout va bien, il y aura aucun souci ». Si vous commencez à peine le polyamour, soyez honnête à ce propos en disant « bah, on sait pas encore comment ça va évoluer, peut-être que mon partenaire il sera en insécurité et que je pourrai pas continuer ma relation avec toi ». Il y a une véritable importance à être honnête et à dire ce qu'il en est vraiment de la situation et pas faire miroiter des choses que vous pourrez pas poursuivre, quoi.
Sachant que dans les débuts, c'est assez logique, d'autant plus si vous avez vécu d'autres modèles relationnels monogames avant, que les choses se fassent un petit peu par étapes. Et donc, vous gardiez une forme de hiérarchie, comme on l'a dit. Vous n'avez pas à vous blâmer là-dessus, c'est bien de chercher à élargir ses horizons. Le but, c'est pas non plus de vous culpabiliser à chaque fois que vous ferez un faux pas. L'idée, c'est de garder une bienveillance, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, et surtout d'être honnête, de présenter la situation telle qu'elle est, de chercher, si vous faites une erreur, à le dire. Il n'y a pas de honte, ça vous arrivera, et ça nous est arrivé en tout cas. Mais quand on met les choses sous le tapis, qu'on les cache, et que l'autre, finalement, ne peut pas se positionner d'une manière qui est confortable et ne peut pas avoir vraiment le choix entre les différentes options que vous lui présentez, ben c'est là où il commence à y avoir des problèmes qui vont s'installer dans vos relations et tout le monde va se sentir pas à sa place ou effectivement négligé, ce qui est jamais agréable.
Ouais, il faut vraiment jouer carte sur table. Et si votre carte, c'est bah, « je suis un peu perdue et je sais pas exactement où je vais », et bah, mettez-la sur la table en fait et que ce soit clair, quoi.
Et ça n'empêchera pas forcément que des gens souffrent in fine parce que vous vous rendrez compte plus tard que finalement vous êtes monogame et vous voulez tout arrêter et du coup les nouvelles relations que vous avez tissées devront s'arrêter à ce moment-là. Mais bon, des ruptures et des problèmes, des histoires d'amour qui se finissent mal, c'est un petit peu la norme aussi. Donc soyez juste le plus bienveillant possible, gardez en tête que tout le monde a des sentiments et faites de votre mieux.
Et évidemment, dans ce type de relation, il faut prendre en compte les privilèges de chacun. Il y a beaucoup d'autres podcasts qui parlent beaucoup des privilèges de féminisme, des origines, de la classe sociale. Faites le point là-dessus aussi. Si c'est des sujets que vous maîtrisez pas bien, ça peut être intéressant de chercher à voir ce que c'est les privilèges et comment ça s'applique sur les relations, quoi.
Pour donner un exemple, si vous êtes un homme blanc, riche, et que vous relationnez avec quelqu'un qui n'a pas tous ces privilèges-là, et qui potentiellement est en manque d'argent, etc., eh bien, il peut avoir une dépendance qui se crée d'une manière ou d'une autre, et toutes ces choses-là sont des choses à garder en tête, que tout le monde n'est pas égal dans une relation.
Et c'est normal, et c'est pas parce que vous avez des privilèges que vous devez vous blâmer et que vous êtes une mauvaise personne, mais il faut faire en sorte que ces privilèges ne vous donnent pas un pouvoir trop fort sur l'autre, quoi. Je sais pas comment dire ça proprement, mais il y a tout un travail à faire autour de ça.
En tout cas, gardez en tête qu'ils existent et qu'ils sont présents. On peut passer à la section suivante, qui est beaucoup plus concrète, c'est quel cadre, quelles règles on peut mettre en place pour nous aider dans une relation non exclusive.
Y a beaucoup de couples qui commencent en disant, par exemple, on n'a pas le droit de revoir une personne, on n'a pas le droit de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais les règles sont assez difficiles à définir, vous le verrez. Vous allez commencer par juste en discuter et à mettre un maximum de choses sur la table.
Oui, en fait, la première approche, c'est généralement de se dire, voilà, on va autoriser la sexualité, avoir du sexe avec une personne qu'on rencontre lors d'une soirée. Ensuite, si on se sent bien, on va peut-être se dire, on va explorer autre chose et on va s'autoriser à revoir une personne. Après, il y a des gens qui vont totalement se mettre d'accord dès le début sur le fait qu'au contraire, eux, ils ressentent des sentiments pour plusieurs personnes et donc ils vont vouloir aller explorer ça. Il n'y a pas de méthode universelle sur comment commencer et quoi faire. L'idée, c'est que si vous avez déjà des relations existantes, bien sûr, il va falloir parler avec ces personnes pour vous mettre d'accord. Finalement, trouver des choses qui vous conviennent à tous les deux, dans lesquelles vous allez pouvoir explorer chacun, vous sentir bien. Donc vous allez vous mettre d'accord sur des pratiques que vous vous autorisez avec d'autres partenaires. Vous allez peut-être aussi vous accorder sur des exclusivités que vous allez garder pour votre relation existante. Et à côté de ça, ça peut être intéressant de rediscuter régulièrement de ces règles, de voir finalement dans vos expérimentations comment chacun vous vivez les choses, d'itérer, parce que finalement, vous ne savez pas ce que vous voudrez dans votre relation, vous êtes dans une phase d'exploration, donc il faut se l'autoriser, mais tout en respectant les autres.
Après, je voudrais dire qu'on parle de règles, c'est pas forcément un contrat qu'on signe avec son sang, etc. Il y a certaines choses qui doivent être très claires, et d'autres sur lesquelles on est un peu plus flexible éventuellement, quoi. Mais au début, c'est vrai que c'est très sécurisant de savoir un peu ce qui peut se passer ou ce qui peut ne pas se passer, parce que quand on commence... Je crois, si on ouvre un couple directement à tout ce qu'on veut alors qu'on était habitué à être monogame, on va s'imaginer éventuellement plein de choses qui pourraient se passer et tout, et ça nous fait peur. Alors que si on se dit « ça c'est possible, mais tout le reste est pas possible », ça nous permet d'avancer plus petit pas par petit pas et pas être en panique tout de suite, quoi.
Oui, c'est pas forcément précis, ça peut être uniquement des intentions, mais il y a quand même pas mal de choses à couvrir. On en avait un petit peu évoqué dans d'autres épisodes, mais ça est quoi, qui, quand, comment, donc le qui, est-ce qu'on peut faire ces nouvelles interactions, par exemple sexuelles, est-ce qu'on peut le faire avec des amis proches, est-ce qu'on peut le faire avec des collègues, voilà, le qui, ou seulement des inconnus, le quoi, quel genre de pratique on peut faire, est-ce qu'il y a certaines pratiques sexuelles qui sont autorisées, d'autres non, quand, est-ce que c'est uniquement quand l'autre il est en voyage, est-ce que c'est uniquement lorsque c'est le week-end, est-ce que voilà, toutes ces questions-là, il y en a plein. Il y a plein de règles qui sont standards. Hein, donc les règles standards, vous les avez déjà évoquées, qui sont de, on ne peut pas revoir des gens, on peut pas avoir de sentiments, il faut rentrer dormir à la maison éventuellement, on n'a pas le droit d'avoir des gestes d'affection en public. On garde ça uniquement en privé pour pas qu'il y ait du candiraton avec les voisins ou des choses comme ça. On a parlé aussi tout à l'heure de la hiérarchie, du fait qu'on peut dire « ah oui, notre relation initiale elle reste plus importante que les autres ». Dans cette hiérarchie, il peut y avoir éventuellement un droit de veto, de dire « oui, je ne veux pas que tu sortes avec telle personne ».
Sacha, tu parles de la question de ne pas avoir le droit de dormir hors de la maison. Et ça, c'est un truc qui peut être déjoué si on met un peu de mauvaise foi. Et moi, par exemple, je suis très forte pour mettre de la mauvaise foi. Mais par exemple, je pourrais rentrer... à 6h du matin, et ma partenaire me dit « mais t'avais dit que tu dormirais pas dehors, que tu rentrais pour dormir ». Et je peux faire « mais j'ai pas dormi ». Et c'est un peu traître, parce que du coup, il y a une personne qui voulait dire « tu dors pas à l'extérieur, ça veut dire que à 1h ou 2h du matin, tu seras rentré ». Et l'autre qui décide un petit peu d'interpréter différemment. Donc, il faut se méfier des règles comme ça parce qu'elles solutionnent pas forcément tout. Il y a plein de façons de comprendre des règles et ça peut être un peu traître, quoi.
Ouais, je vous invite à rediscuter des règles, vous assurer que vous avez bien compris, en fait, quel est l'enjeu pour votre partenaire. Alexia évoque là, effectivement, des aspects intentionnels d'interprétation des règles. Ça peut être intéressant, effectivement, de vérifier qu'on a la même compréhension des accords qu'on met en place. Après, on peut aussi se rendre compte au fur et à mesure qu'une règle ne nous va pas ou qu'elle est limitante. Je vais dire n'importe quoi, mais moi, dans mon exploration, au début, je savais pas trop ce que je voulais. Et j'avais dit à mon partenaire que je recherchais pas spécialement de sexualité, vu que en plus j'avais pas de désir physique. En revanche, bah c'était pas très clair pour moi si j'avais le droit de dormir dans les bras de quelqu'un. Et bah la première fois que je l'avais fait, je me sentais pas à l'aise parce que j'avais l'impression d'être limite avec les règles et que potentiellement mon partenaire n'aurait pas été vraiment d'accord. Et d'un autre côté, c'était quelque chose que j'avais envie de vivre, donc je m'étais accordé cette liberté. Ça peut arriver dans les débuts que y a un flou autour du cadrage. C'est pas forcément dramatique. L'idée, c'est par contre d'en rediscuter assez rapidement et de pas faire en sorte que cet événement se reproduise et se reproduise encore jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se sente vraiment lésé et pas bien et qui, derrière, se sente en insécurité. Pour avoir été dans l'autre position aussi, donc de la personne qui a l'impression que l'autre ne respecte pas la règle qu'on a fixée, c'est très désagréable, ça heurte la confiance. Or, bah, c'est un peu la base des relations pour moi, la confiance. Donc c'est un peu dommage quand ça se passe comme ça. Donc voilà, je vous invite à rediscuter de ces règles au fur et à mesure de vos expériences, si finalement vous êtes toujours d'accord.
Et on parlera juste après de quel cadre peut être pratique pour pouvoir discuter au fil du temps de ce genre de choses. Mais voilà, c'est intéressant, comme on vient de dire, de garder à l'esprit que les règles, c'est pas mal, mais ça a quand même des limites. Peut-être un jeu de mots. Ça a des limites puisque... on peut mal les interpréter, même en toute bonne foi, il peut avoir une incompréhension dessus, et parfois elles sont même impossibles à tenir. Par exemple, la règle, il ne faut pas développer de sentiments pour les gens avec qui on couche. Bon, ça n'est pas quelque chose qui se contrôle. Donc voilà, les règles, ça peut être intéressant pour que ça soit une intention, etc., mais ça peut être un petit peu limité dans le sens où on peut pas tout contrôler, c'est pas noir ou blanc.
Par ailleurs, en soi, c'est pas toujours évident de savoir ce qui va être difficile pour nous, à vivre. Du coup, vous allez au début fixer un ensemble de règles, vous allez vous sentir très bien peut-être avec, ou peut-être que vous allez avoir des appréhensions sur certains sujets. Mais en fait, il n'y a que quand vous vivrez ces situations-là que vous vous rendrez compte si finalement vous vous sentez en danger, si vous vous sentez très bien, si vous êtes à l'aise avec le fait que votre partenaire vive d'autres expériences. Et ça demande un petit peu de connaissance de soi, un petit peu d'introspection aussi, de finalement savoir anticiper ce qui va vous poser problème et ce qui va être difficile à vivre pour vous. Donc, ça peut être intéressant de vous poser des questions personnellement sur pourquoi je me sens en danger dans une relation. Il y a plein de questions que je pourrais vous lancer. Mais oui, demandez-vous ce qui vous met en sécurité dans une relation, ce qui vous met en insécurité dans une relation. Qu'est-ce que vous aimez dans les relations? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Je pense que c'est des bons points de départ.
Moi, j'ai trouvé ça fou, le fait que, effectivement, il y a des choses où je me dis, ah, mais s'il se passe ça, mais je me détruis sur place parce que ça sera horrible et tout. Et au final, quand le truc se passe, éventuellement, on est là genre, ça va, en fait. Et il y a un truc pour moi qui était difficile, c'était sentir une tension romantique entre mon partenaire et quelqu'un d'autre. Et c'était très pénible pour moi. Et j'étais, ah, mais en fait, développez votre relation parce que la tension qu'il y a entre vous deux est plus insupportable que le reste. Et voilà, et du coup, c'est vraiment surprenant ce qui se passe éventuellement bien pour nous alors qu'on pensait que ça serait terrible, quoi.
Ouais, carrément, je me souviens d'avoir discuté d'un date qu'un de mes partenaires avait, et en fait, j'étais presque plus excitée que lui à l'idée qu'il me raconte ce qui s'était passé, comment ça s'était joué pour lui. J'avais une forme d'enthousiasme parce que je me rendais compte que je le vivais pas mal, qu'il me parle de son date, et du coup, j'étais super contente. Alors ça se passera pas toujours comme ça, mais en attendant, c'est vrai qu'il y a aussi des choses qui peuvent vous surprendre en bien, et ça, c'est agréable aussi.
À propos des règles, quelque chose que je trouve important, c'est de faire attention à tout ce qui va être de la symétrie. C'est quelque chose que souvent les gens vont rechercher, vraiment une symétrie importante, qu'il y ait de l'égalité.
Genre si toi tu sors en date, moi il faut que je sorte en date.
C'est ça. Et il peut y avoir confusion entre égalité, équité, tout ce genre de choses, et ça peut être assez dangereux. Si par exemple, moi j'aime beaucoup coucher avec des gens, sans prendre le temps de les connaître éventuellement, et que ma partenaire, ça l'intéresse moins, il faudrait surtout pas qu'elle se force à coucher avec des gens alors que c'est pas ça qu'elle recherche. Et donc se permettre de vivre des choses différentes, sans se dire « ah, il y a quelque chose qui va pas », et se mettre la pression parce que on n'est pas en train de vivre la même chose que l'autre.
Et soit dit en passant, c'est une différence majeure avec le modèle monogame, parce que dans le modèle monogame, comme il y a une sorte de fusion, on va avoir tendance à attendre vraiment des choses symétriques de la part de son partenaire. Donc c'est effectivement un point de vigilance à avoir. Là, vous avez le droit de vous autoriser des asymétries.
Je pense que dans le modèle monogame, ça peut exister aussi. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup besoin de sortir, je sais pas, faire du sport, de la planche à voile par exemple, et qui va vraiment avoir besoin de partir quelques jours de temps en temps du foyer, quoi. Et une autre personne qui est là, genre, bah non, moi je suis bien dans le foyer, j'ai pas spécialement besoin de faire des voyages ou quoi. Mmh, et donc ça peut exister en modèle monogame aussi, je pense.
Un point important au niveau des règles, c'est de vous mettre d'accord sur quelle prise de risque vous êtes prêt à avoir en termes de sexualité. C'est-à-dire que lorsque vous allez coucher avec d'autres gens, il y a forcément une prise de risque de contamination, d'IST, qui est plus ou moins grande selon les pratiques que vous faites et les protections que vous faites. Pour rappel, il y a un unique dispositif qui existe qui protège des IST lors de rapports sexuels, c'est le préservatif. Et donc, notamment, il est important de discuter dans votre couple, si vous ouvrez votre couple, mais aussi avec chaque autre partenaire que vous allez avoir, quels risques vous êtes prêt à avoir. C'est bien d'avoir fait un dépistage et de pouvoir donner les résultats de ce dépistage clairement et que les gens soient au courant de s'il y a des risques. Et ensuite, donc, le préservatif, de savoir est-ce que vous mettez le préservatif, par exemple, pour du sexe oral ou non. Est-ce que c'est quelque chose avec qui les différentes personnes impliquées sont d'accord ou non?
C'est difficile parce que c'est un sujet très tabou, que le fait d'avoir une IST, on peut se sentir honteux ou des choses comme ça, mais ce sont des choses qui arrivent et il faut pas le cacher pour autant. C'est vraiment important d'avoir un discours clair à ce niveau-là. Et d'être à l'écoute, s'il y a un partenaire ou une partenaire qui vous fait part d'une IST, c'est hyper important d'être respectueux par rapport à ça et de pas le traiter avec dégoût ou de pas l'accabler. Voilà, c'est important d'être bienveillant aussi autour de ces problématiques.
Et c'est des discours qui sont pas toujours très habituels. Enfin, personnellement, j'ai pas, donc je me considère asexuelle, donc c'est pas des pratique que je mets sur les premiers plans dans mes relations. Mais quand ça m'est arrivé de devoir discuter de ces sujets-là, au début, j'étais très maladroite. Je savais pas forcément quel bout aborder le sujet. Franchement, lancez-vous. Ça va être un petit peu bizarre au début. Mais finalement, parlez effectivement de vos dépistages, des pratiques que vous voulez faire. Et puis, essayez de vous interroger aussi sur à quel moment, finalement, les pratiques que vous allez avoir vont impacter vos différents partenaires. Et quand est-ce qu'ils voudraient être au courant de ce que vous avez fait ou éventuellement des impacts que ça pourrait avoir sur leur propre corps à eux, sans que l'interaction ait été faite en direct avec eux. C'est un petit peu ça le point compliqué au début, et de savoir qu'est-ce que vous allez être amené à raconter, parce que l'idée c'est pas non plus de raconter vos ébats en moult détails avec le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire que vous avez, mais de dire ce qu'il faut pour respecter la vie privée de chacun et le corps de chacun.
Et inversement, vous avez le droit aussi de demander à un partenaire avec qui vous comptez avoir une relation sexuelle. C'est pas intrusif de demander ce qu'il en est si la personne en face vous l'a pas dit d'elle-même. C'est important et c'est acceptable comme question, quoi.
C'est ça, c'est est-ce que tu as des rapports protégés ou non avec d'autres partenaires? Vous avez le droit de poser cette question-là.
Ça peut être un peu difficile aussi dans la mesure où le sexe, c'est très romancisé. Enfin, on va considérer que c'est quelque chose de magique et on peut pas parler de façon aussi terre à terre de quelque chose aussi romantique que le sexe ou des choses comme ça. Mais non, en fait, c'est un truc terre à terre. Votre corps est en jeu et c'est important d'en parler clairement. Et d'en parler clairement à des partenaires, même si ça peut être difficile. Si j'ai un partenaire qui vient et qui me dit, en fait, j'ai maintenant une IST, enfin, et que vraisemblablement, il l'a eu d'une autre partenaire, ça sera difficile à entendre, mais il faut l'accepter et l'important c'est que la personne en face l'ait dit et fasse le nécessaire pour prendre soin de tout le monde derrière, quoi.
L'important c'est qu'au final chacun est responsable des propres risques qu'il prend, et donc c'est pour ça que la communication est importante là-dessus, de savoir les risques que prennent les autres. Et donc on peut pas interdire à l'autre de faire des choses avec son corps, par contre on peut lui dire, si toi tu fais ces choses là hors du cadre avec ton corps et que tu me mets en danger, alors moi je ne veux plus avoir de relations sexuelles non protégées avec toi, ou alors je ne veux plus avoir de relations sexuelles tout court avec toi. Voilà, c'est, on est responsable des risques qu'on a envie de prendre, et pour ça il faut avoir toutes les infos. Et au final, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que dans les relations non monogames, il n'y a pas plus de maladies sexuellement transmissibles qui sont transmises que dans une relation monogame, probablement parce qu'il y a plus de communication là-dessus et moins de tromperies.
Donc je propose de passer à la troisième question, qui est comment communiquer ? À part en disant des mots, du coup, Adèle, Sacha?
En fait, depuis tout à l'heure, on parle d'établir un cadre, de discuter des pratiques sexuelles et de sa santé. L'idée, là, c'est très pragmatiquement, comment on fait, qu'est-ce qu'on communique et quand?
Par exemple, une manière qui est assez courante, bien que souvent mal vue, c'est la pratique qui s'appelle « don't ask, don't tell ». Ça veut dire juste « on ne se pose pas de questions et on ne veut pas vraiment savoir ce qu'il se passe ». Concrètement, on s'autorise à aller coucher avec d'autres gens, on sait que ça arrive peut-être, mais on veut pas savoir parce que ça nous ferait mal de le savoir, etc. Ça, par exemple, c'est une possibilité. Ça a plusieurs problèmes que, du coup, on est obligé de mentir un petit peu par omission à son partenaire. Personnellement, je trouve ça assez dommage parce que, bah, ce qu'on vit de chouette avec d'autres gens, bah, on a envie de le partager. Et donc, du coup, bah, on se prive de ce partage possible. Mais si c'est quelque chose qui vous convient, vous pouvez essayer. C'est une possibilité.
Moi, je trouve ça difficile aussi dans la mesure où si on est dans du don't ask, don't tell, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise globalement avec ce qui se passe. Et à mon sens, c'est un modèle qui peut être utilisé durant un temps. Mais s'il est utilisé, c'est qu'il y a des problèmes sous-jacents, de jalousie, d'insécurité, de choses comme ça. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a des questions à se poser sur comment on l'utilise. Après, il y a peut-être des gens qui l'utilisent de façon tout à fait sereine aussi et c'est OK.
Ouais, personnellement, moi, j'ai préféré l'approche inverse, c'est-à-dire on se dit plutôt, on va se dire les choses et on va s'autoriser à se poser des questions. Au début, la problématique, c'est quand est-ce que j'aborde finalement que j'ai une nouvelle relation? Est-ce que je le dis avant le premier rendez-vous avec un autre partenaire? Est-ce que je fais un point après mon premier date, une fois que je reviens et j'en parle à mon partenaire, je lui dis comment ça s'est passé, si j'ai envie de revoir la personne, si j'ai pas envie de la revoir? Ces aspects-là, ils sont un petit peu compliqués, ils vont être propres à chacun. Et bah, moi, j'avais choisi un aspect un peu intermédiaire avec mon partenaire. Je lui avais dit, bah voilà, on peut se déclarer spontanément chacun les franchissements d'étapes quand on a l'impression qu'il y en a. Mais parfois, ça va pas forcément être le bon moment. On va rentrer le soir, la personne va avoir une longue journée de travail dans les pattes, elle va pas se sentir très bien. Et on va peut-être se dire, bon, bah, je vais peut-être pas lui raconter que moi, ce midi, j'ai déjeuné avec une personne incroyable et que j'ai fait mon premier date parce que ça va être encore plus difficile à vivre. Et du coup, il peut y avoir des moments un petit peu plus propices à l'annonce de ce genre de choses et parfois ils viennent pas.
Si je peux intervenir, ils viennent jamais. C'est jamais le bon moment de dire quelque chose qui peut être difficile à entendre pour quelqu'un. Parce que si la personne est de mauvaise humeur et qu'elle a eu une sale journée, t'es là genre, je vais pas en rajouter une couche. Mais si la personne a eu une super journée, t'es là genre, je vais pas lui dire que j'ai eu un premier date parce que ça va la mettre en insécurité. Donc il y a pas de bon moment pour dire les choses et il y a pas de bonne façon pour dire les choses. Et ça m'est arrivé beaucoup avec Sacha, où il y a des moments où il voulait me dire des choses qui progressaient dans sa vie. Mais en fait, c'était jamais le bon moment et je le prenais tout le temps mal, quoi. Enfin, c'était fou. Et à chaque fois, j'avais un reproche sur comment ou quand il me disait les choses et c'était très compliqué.
Ouais. Bah, du coup, en fait, pour éviter que l'autre perçoive qu'il y a quand même des changements, par exemple, dans mon comportement, on s'était dit avec mon premier partenaire, bah, l'autre a le droit aussi, s'il sent qu'il y a un truc un petit peu, de poser une question et de dire, par exemple, dis-moi, t'aurais pas eu un rendez-vous ce midi avec quelqu'un de nouveau? Ou alors, est-ce que t'aurais pas revu Philippe que t'avais rencontré la dernière fois?
Mais voilà, mais tu vois là, typiquement, si j'avais fait ça à Sacha, genre je me dis, ok, j'ai le droit de poser des questions. Sacha, t'aurais pas vu un tel et tout? Et s'il me dit oui, je suis là genre, mais pourquoi tu m'en as pas parlé et tout? Et il est là genre, bah il y avait pas de moment où j'ai pu t'en parler en fait.
Ah oui, oui, complètement, ça règle pas la situation totalement. Au début, ça va être compliqué, vous saurez pas quand communiquer et vous saurez pas quoi dire et vos dialogues vont être confus et forcément, ça va amener des difficultés dans vos relations existantes. Au début, du coup, il y aura des maladresses, vous communiquerez pas les bonnes choses ou vous reprocherez à votre partenaire de pas vous avoir annoncé les bonnes choses. C'est normal, c'est des aspects d'itération. Pour autant, avoir ce cadre d'accord où on se disait « bon, on va essayer de communiquer et de mieux en mieux communiquer », c'était hyper positif pour moi dans la relation. Et ce cadre de non seulement « tell me things », mais aussi « on s'autorise à se demander les choses », ça faisait un partage de la responsabilité où chacun, en fait, avait une influence sur le dialogue et sur la bonne communication dans la relation. Donc ça, moi, je trouve ça super chouette, si vous pouvez le mettre en place, d'avoir cette réciprocité finalement et la possibilité que chacun intervienne spontanément pour demander ou pour communiquer.
Je peux donner un cas assez concret pour donner un exemple concret. C'est on décide d'abord ce qu'on décide de dire. Donc par exemple, nous on s'était dit avec Alexia, ah si on couche avec quelqu'un dans le lit conjugal, il faut le dire. Donc ça, on s'est mis d'accord déjà sur ce qu'on dit. Donc il faut communiquer ça dans un délai raisonnable. Et après, la question, et ça nous a pris pas mal de temps et d'itération, d'arriver à trouver quand est-ce que c'était le bon moment de dire ça. Parce que si je le disais trop tôt, après, comme disait Alexia, elle disait que c'était jamais le bon moment, mais si je le disais trop tôt, c'était « Ah, mais tu me le dis, alors que là, je viens de rentrer du travail, je voulais pas savoir, etc. » Et si je le disais pas immédiatement, eh bien, Alexia, elle, pouvait éventuellement se rendre compte ou présupposer qu'il s'était passé quelque chose et se dire « Ah, j'ai quand même un doute, et il me dit rien. Il me dit rien alors qu'on était censé le dire. » Et comme tu l'as dit, Adèle, c'est intéressant de s'autoriser, et au final, c'est ce que nous, on a fait, mais de s'autoriser à poser une question. De si on a un doute, si le truc est dans la tête, bah c'est le moment de le dire. De dire, bon, bah là, j'ai un doute, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et là, on en parle immédiatement. Donc voilà, donc si vous avez des questions à poser, c'est souvent bah bien de les poser, parce que nous, on n'arrivait pas à dire quand est-ce que c'était.
Et rester sur le principe qu'a priori, la personne, elle veut pas vous cacher les choses. Enfin, si Sacha me disait pas les choses tout de suite, il avait une bonne raison pour le faire. Et moi, j'étais en panique et j'avais pas à l'être, en fait. Et je prêtais éventuellement de mauvaises intentions. Mais c'était mes insécurités qui parlaient à travers une mauvaise foi, qui pouvaient dire, ah, bah, Sacha, tu me l'as pas dit, tu voulais me le cacher ou je sais pas quoi. Enfin, ce qui était pas vrai. Je savais que c'était pas vrai. Mais je portais des accusations qui n'avaient pas forcément lieu d'être, quoi.
À côté de ça, ça peut être difficile justement de trouver un bon moment pour discuter. Et du coup, par rapport à ça, eh ben, y a un super outil qui existe, c'est de bloquer un temps consacré pour se dire les choses.
Ouais, il y a un outil que nous, on appelle le radar, dont on a entendu parler sur le podcast de Multi Amaury. Et en fait, c'est d'abord se dire à intervalles réguliers, on va prendre un temps pour dire toutes les choses qu'on n'a pas réussi à dire, en fait. Et donc là, c'est un moment où on sait qu'il va y avoir des choses difficiles à entendre éventuellement, mais où c'est un moment aussi où c'est le moment créneau, la deadline, pour dire des choses qu'on n'aura pas réussi à dire jusqu'à présent, quoi. Et donc, ça peut être une discussion, par exemple, on se dit 2 heures toutes les 2 semaines éventuellement, parce que ça peut être important, surtout sur les débuts d'ouverture de couple, d'avoir un temps consacré un peu régulier. Nous, aujourd'hui, on continue à le faire et on le fait une fois par mois, quoi. Une fois par mois, on se dit, bon, on prend 2 heures pour passer en revue différents aspects de nos vies et regarder s'il y a des choses qui nous ont blessés, s'il y a des choses qu'on devrait faire autrement la prochaine fois. Je pense qu'on fera un autre épisode sur le sujet parce que ça sera très long. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voilà, juste sachez que consacrer un temps à dire les choses que vous avez prévues à l'avance et vous allez essayer d'être en forme, d'être en bonne disposition pour tenir cette discussion difficile, c'est super important.
Oui, et bien sûr, ça veut pas dire que ça annule tous les autres moments de discussion. Ça ne vous empêche pas d'être spontané et de communiquer par ailleurs. Mais c'est un espace vraiment qui vous est réservé et sur lequel il est vachement plus facile, si jamais vous avez des difficultés à vous dire, mon partenaire, il m'annonce pas qu'il a franchi une étape et qu'il a redaté telle personne. Au moins, vous pouvez vous raconter dans votre tête. Oui, mais il y a encore la possibilité qu'il m'en parle lors du prochain radar. Et moi, ça me raccrochait et ça m'incitait à avoir plus confiance dans mes liens existants et de me dire, finalement, mon partenaire, il trouve pas l'occasion de m'en parler, mais il y a un temps consacré à ça et on peut se faire confiance, on va faire alliance.
Je vais insister sur ce que tu viens de dire, Adèle, c'est-à-dire on doit quand même parler en dehors du radar, en fait. Le radar, c'est pas censé être un truc où on dit on n'a pas le droit de parler en dehors du radar. C'est au contraire quelque chose où on se dit, si on n'a pas parlé d'ici le radar, il faudra qu'on parle durant le radar, quoi. Et si on n'a rien à dire durant le radar, tant mieux, en fait. Ça veut dire qu'on a réussi à communiquer sainement sur les autres choses en dehors, de façon naturelle, et tant mieux. Mais il vaut mieux bloquer une plage horaire, quitte à se dire, finalement, on a parlé de tous les sujets durant la semaine, et on va plutôt passer ces 2 heures à manger des chips devant notre série préférée, quoi.
Oui, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y avait jamais de bon moment pour parler des choses, et ce moment dédié, ça devient le bon moment où on sait, on a prévu, on est forcément dans la disposition de, même si ça va mal dans la vie autour, et là c'est le moment pour parler des choses difficiles et donc il y a un moment dédié.
Yeah.
Et sachant que par ailleurs, du coup, si il vous est rien arrivé de spécial ou si vous n'avez pas grand chose à faire, du coup ça fait un moment aussi réservé à votre relation et où vous pouvez passer un bon moment, avoir finalement presque un date avec vos relations existantes et c'est agréable aussi, hein.
Mais au final, moi, je me rends compte que même quand on pense qu'il n'y a rien à dire, il y a toujours des choses à dire.
Ouais, il y a toujours. On va pas détailler le radar, mais juste, je veux dire, à la fin de cet échange difficile, prenez un temps pour vous rappeler que vous êtes importants l'un pour l'autre, que vous vous aimez, ce que vous appréciez chez l'autre, parce que derrière ces discussions difficiles, on peut pas rester sur quelque chose trop dur comme ça. C'est important de se revaloriser derrière mutuellement, je pense.
On va parler d'autres points. Sur la communication, un point important lorsqu'on parle dans un contexte non exclusif, c'est de respecter la vie privée des autres personnes. C'est-à-dire que dans un couple monogame, souvent, il y a un petit peu le mythe de « on raconte absolument tout à son âme sœur et qu'il n'y a pas de secret et que si toi tu me dis un secret, et bah évidemment que je vais tout raconter à ma copine parce que c'est comme ça que se passe la vie.
» Bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais bon, ça peut arriver.
On peut questionner ça déjà dans un premier temps, mais dans un contexte avec plusieurs relations, eh bien, voilà, il faut faire attention à respecter la vie privée de différentes personnes, donc de demander à ces différentes relations qu'est-ce qui est acceptable de partager avec les autres et de ne pas considérer par défaut, notamment s'il y a une hiérarchie, que parce que c'est votre partenaire principal, eh bien, vous avez le droit de lui raconter absolument toute l'intimité, tous les problèmes, absolument tout, sur la vie d'une autre personne sans que cette personne n'y ait consenti.
Ouais, par exemple, si Adèle va me raconter un truc un peu intime de sa vie, bah, je vais pas le raconter à d'autres personnes, quoi. Sauf si, bah, je vais voir Adèle et je fais « Ah, il y a tel truc dont tu m'as parlé, j'aimerais bien en parler avec tel autre partenaire, est-ce que ça serait ok pour toi? Est-ce que t'es à l'aise avec ça ?» Et en fonction de si Adèle me dit « c'est trop difficile pour moi et je préfère pas que ça se sache » ou bien qu'elle me dise « non, c'est ok, tu peux en parler à telle personne », bah on agit selon la correspondance derrière, quoi.
Un autre point d'attention, c'est de ne pas minimiser ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que ça peut être facile pour se dire qu'on veut protéger notre relation principale ou même d'autres, les autres relations, de minimiser ce qu'on vit à côté. Par exemple, si je passe une super soirée avec une nouvelle personne et que Alexia me demande « Ah, comment c'était ta soirée ?» Je vais dire « Ouais, bof, c'était pas terrible. » Ou « Ça allait. » Enfin, et de minimiser le truc. Alors que, bon, je peux dire ça si c'est vrai, c'est pas un problème, mais si jamais moi j'ai trouvé ça absolument génial, bon, je suis pas forcément obligé de le dire dans tous les détails à quel point c'était formidable, mais...
C'était la meilleure soirée de ma vie.
J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi incroyable.
Voilà, mais de pas dire que c'est pas terrible, parce qu'en fait ça rend service à personne, surtout si c'est une relation qui est suivie. C'est-à-dire que si je vais voir régulièrement quelqu'un et que j'arrête pas de dire à Alexia que bah cette relation elle est bof, c'est pas très intéressant, et de ne dire par exemple je pourrais prendre spécifiquement tous les problèmes qu'il y a dans cette relation et les mettre en avant en disant bon bah si je lui mets les problèmes ça va pas lui créer d'insécurité donc c'est bien, mais en fait du coup Alexia elle va se dire mais cette relation elle a l'air nulle. Pourquoi est-ce qu'il s'emmerde avec cette personne-là? Et donc, c'est dangereux sur pas mal de points de minimiser ce qui se passe.
Ouais, en fait, c'est dangereux à la fois pour l'autre partenaire qui dit « Mais attends, il parle comme ça de ses liens, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il parle de moi de cette manière-là aussi ?» Donc ça peut être insécurisant. Ouais. Ça peut être insécurisant pour la personne dont il s'agit, parce que bah forcément, elle peut se avoir des échos ensuite de la manière dont on parle de la relation et sentir pas bien. Et puis, ça va rien protéger du tout. Et finalement, bah, il peut aussi y avoir une défiance qui se met en place de « Mais attends, pourquoi il dévalorise son autre relation ?» De quoi il cherche à me protéger ?» Et en fait, bah ça marche pas du tout. Et ça, j'ai juste l'impression de plus pouvoir faire confiance à ses propos.
C'est ça. Parce qu'en fait, on se rend compte au bout d'un moment que la personne, elle te dit que c'est pas très bien, mais elle a toujours envie de retourner voir sa partenaire. Donc, ça a pas de sens. Et on comprend que ça soit un réflexe. Hein. Je pense que... Enfin, moi, je l'ai eu. J'ai clairement eu ce réflexe et je pense que je l'ai encore. Et comme disait Sacha, il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. On dit « Ah ouais, c'était super, meilleure soirée de ma vie. » Mais il y a un équilibre à trouver d'honnêteté en disant « Oui, c'était vraiment une bonne soirée. Je suis contente de l'avoir passée. »
Ça paraît bizarre à dire, mais finalement, restez simple dans ce que vous dites. Franchement, les mots les plus simples sont les mots les plus justes, parfois.
Et puis, si la personne en face a des insécurités qui sont liées à ça, c'est aussi un travail peut-être à mener. Si ça me pose problème que Sacha y passe une bonne soirée, bah, ça veut dire que j'ai des choses à gérer de mon côté éventuellement, quoi.
Et enfin, un dernier point de communication que je trouve intéressant de mettre en avant, c'est de parler des attentes que vous avez lorsqu'elles sont clairement identifiées. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous dites « Ah oui, moi, je m'attends à ce que on se voit toutes les semaines, par exemple, ou qu'on ait des relations sexuelles fréquentes, ou je n'en sais rien », si vous avez des attentes qui sont clair dès le début ou même qui commence à venir, parce que ça peut être, on commence à sortir avec quelqu'un, on commence à la voir régulièrement et l'attente de se voir toutes les semaines se crée là-dessus, d'en parler régulièrement et de dire, ah bah maintenant moi j'ai cette attente, si jamais elle n'est pas répondue, ça va me décevoir, et donc voilà, que l'information soit là et de s'assurer que les attentes des unes et des autres ne soient pas trop incompatibles.
La question suivante, c'est qu'est-ce qui se passe en polyamour spécifiquement par rapport aux autres relations non exclusives ?
Pour moi, dans le polyamour, ce qu'il détache du reste, c'est l'idée vraiment de créer des relations. Et donc notamment quand on va créer une relation qui se tient sur la durée, eh bien on va avoir éventuellement la notion de tomber amoureux de quelqu'un, ou ce qu'on appelle dans le polyamour l'énergie de nouvelles relations, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une grande attirance vers quelqu'un et on va vouloir envie de tout faire avec cette personne. Et donc, pour moi, c'est peut-être le truc le plus important dans une relation polyamoureuse qui démarre, c'est de savoir que ça, ça va exister. Et donc, si on démarre une nouvelle relation avec quelqu'un, notre cerveau, il va avoir envie de passer tout son temps et toute son énergie et tout penser avec cette nouvelle relation-là. Et que ça peut se faire au détriment de ses partenaires habituels. Et donc, de savoir que il faut consciemment garder du temps pour ces autres relations et faire attention à ce qu'on ne néglige pas les autres autour de soi.
Ouais, c'est vrai que en début de relation, on est tout feu tout flamme parce que on a plein de choses nouvelles à découvrir par rapport à une personne dont on vient de tomber amoureux. Et c'est quelque chose d'assez fort qui demande à être calmé quand on a d'autres relations. Ça, c'est un petit inconvénient, je trouve, du polyamour, qui est on peut pas se laisser à des romances tout à fait passionnelles en oubliant le reste du monde, parce que par définition, on veut pas faire ça.
À côté, cet enthousiasme, il nous amène à nous organiser aussi pour ménager une place à tout le monde. Et ça me fait penser à des problématiques d'agenda que moi, j'ai beaucoup eues et qui étaient finalement quand on relationne avec pas mal de monde, qu'on travaille, qu'on veut se garder du temps personnel, vite vient une question récurrente qui est comment gérer mon temps pour que finalement chacun s'y retrouve, que j'accorde du temps à toutes mes relations. Et c'est aussi une problématique que je trouve assez spécifique au polyamour, même si ça peut exister aussi dans les relations monogames, de se demander comment j'accorde du temps et de la place à mes amis. Je trouve qu'elle est exacerbée dans les relations polyamoureuses. Au début, c'est un petit peu déroutant, surtout si chacun vient avec finalement ses exigences de « bon, moi, j'aimerais bien que tu me vois deux fois par semaine ». Si on a une, deux, trois relations qui ont cette même exigence, assez vite, l'agenda, il va exploser. C'est des sujets dont il est intéressant de discuter et ménager du temps pour ses relations et se ménager du temps personnel aussi pour digérer toutes ces expériences finalement que vous faites. Moi, j'ai négligé ce point-là au début et je vous assure que ça faisait un petit cocktail émotionnel. c'est bien de se laisser des petites soupapes et des bulles d'air pour intégrer finalement ce que vous vivez et pouvoir être réellement en contact avec les gens. Pas forcément enchaîner deux rendez-vous et dire « Ok, je suis libre de 17h à 23h, alors je vais rentabiliser et de 17h à 19h, je vais prendre un verre avec ma relation A et de 19h à 23h, je vais aller en soirée avec quelqu'un d'autre. » Je le dis en rigolant, mais vous pourriez être tenté d'optimiser vos agendas. Moi, je vous incite au contraire à vous laisser des petits temps pour faire le point sur votre vécu, tout simplement.
Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un peu de temps seul aussi. Mmh. Et c'est important d'avoir... Moi, de temps en temps, j'ai besoin d'être toute seule et lire au soleil. Et c'est vraiment cool, quoi. Je peux pas être tout le temps avec des gens non plus.
Mmh. Et d'autant plus au début, où vous aurez peut-être besoin d'ajuster des choses, de vous prendre plus de temps pour vous. Ou vous aviez oublié qu'il fallait aussi que vous vous occupiez de... faire le ménage chez vous, par exemple. Et donc, du coup, si jamais vous avez oublié de prendre ça en compte, gardez-vous des temps de soupape pour faire ce genre de choses.
Et puis, ne délaissez pas vos amis. Je pense que c'est super important. Ça peut s'oublier dans les relations non exclusives ou dans le polyamour. On se dit qu'on est avec que nos amoureux, mais en fait, les amis sont super importants aussi.
Et un autre point spécifique du polyamour, c'est l'existence de la relation entre métamours. Donc les métamours, pour rappel, c'est si moi j'ai deux partenaires différentes, je relationne avec deux personnes, et bien ces deux personnes-là, entre elles, ce sont des métamours. Cette relation-là, elle peut être plus ou moins existante, plus ou moins présente, elle peut ne pas exister du tout. Nous, généralement, ce qu'on considère, c'est que, à minimum, il faut être courtois les uns les autres, si on se croise, que ça se passe bien, et de rester courtois, de rester gentil. Se rencontrer, c'est souvent une bonne chose pour pas mal de gens. Se rencontrer, ça permet de démystifier la personne en face, de se rendre compte que la personne n'est qu'une personne humaine.
Et puis souvent, je pense que votre partenaire sera en relation avec des personnes qu'a priori vous serez en capacité d'apprécier aussi. Donc ça peut être super précieux d'avoir des métas en fait avec qui on s'entend éventuellement super bien et on peut rigoler, on peut aller prendre même éventuellement un verre ensemble et ça peut faire de très belles relations. Mais c'est pas obligé, on peut avoir pas envie de développer de relations avec nos métas et c'est tout à fait ok.
Et là, a priori, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous en êtes relativement au début ou alors que vous voulez réviser vos classiques, c'est ok aussi. Moi, au début, je n'envisageais pas, mais pas du tout, de rencontrer mes métas. Hein. C'était pas quelque chose que j'avais en tête, c'est venu aussi avec le temps. Donc laissez-vous le temps de faire ces expériences-là. Et effectivement, moi, la première rencontre d'une partenaire, d'un de mes partenaires, ça a été quelque chose d'hyper riche. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me faisait flipper dans l'idée et que finalement, quand ça s'est produit, bah ça m'a confrontée à mes peurs et je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça et que finalement, ça m'a apporté plein de choses, quoi.
Et enfin, pour la dernière partie, on va se poser la question de comment rencontrer des gens, à la fois pour s'entourer de personnes bienveillantes qui peuvent nous aider et à la fois pour rencontrer des gens pour vivre ces relations non exclusives.
Je pense qu'un premier espace de ressources qui m'a été utile personnellement, c'est le site polyamour.info, qui est un forum très vieux, donc il n'est pas forcément très esthétique, mais il a le mérite d'être très accessible avec, je crois, en tout cas quand j'y étais, une bonne communauté où on trouvait des interlocuteurs et interlocutrices qui nous aidaient à réfléchir sur nos problématiques.
Et au-delà du forum, il y a une petite section événements qui indique des événements qui se passent dans la communauté polyamoureuse, dans différentes villes de France, et peut-être de Belgique aussi. Et ces événements, c'est vraiment des très très bons moyens de rencontrer d'autres gens qui vivent ce genre de choses, que vous soyez lancé ou non, que vous soyez complètement débutant ou juste en questionnement, ça peut être intéressant d'aller y faire un tour, de discuter avec des gens et d'avoir des gens qui ne vont pas immédiatement, lorsque vous parlez de ça, vous juger, vous rebuter, parce que ça, c'est un problème qu'on voit fréquemment, c'est que une personne est prête et a envie de vivre des relations non exclusives, mais ses amis lui disent « Oh, mais tu te fais avoir, tu vas être cocu » ou je ne sais quoi, et où du coup, ça refroidit beaucoup parce que bah, c'est très dévalorisé par les autres. Moi, je me souviens d'une fois, on était en soirée étudiante avec Alexia et j'avais un camarade de promo qui me voit et qui me dit « Mais c'est pas ta copine qui est en train de danser là près de avec un autre gars là ?» Je dis « Bah si, si. » Il me dit « Mais te laisse pas faire, ça va pas du tout, il faut que t'agisses, reprends-toi. » Je dis « Non, mais c'est tout à fait autorisé, il y a pas de problème, c'est cool, il y a pas de problème. »« Non, mais te laisse pas faire, ça
n'importe
ne va pas. »
Bah c'est vrai que moi j'ai eu des interactions similaires aussi, des amis qui veulent ton bien et qui viennent te voir et qui disent « Non mais en fait, à moi tu peux me dire que ton copain tu l'aimes plus et que t'as juste envie de trouver quelqu'un d'autre.
Horrible.
Mais c'est pas très correct, non, vis-à-vis de lui. » Et c'était quelqu'un que j'aimais profondément, j'avais envie de relationner avec elle. Donc c'est très difficile à vivre et en particulier dans un moment où vous vous posez des questions, vous êtes en train de chercher ce que vous voulez comme modèle, ça peut vous remettre profondément en question. Donc, entourez-vous de gens qui, à la limite, se posent les mêmes questions que vous et qui vont pouvoir aborder les choses un petit peu différemment et être dans une recherche de compréhension par rapport à ce que vous voulez vivre.
Et ça va être notamment important lorsque des choses commenceront à aller mal, qu'il y aura des choses difficiles à vivre, parce que si jamais vous allez avec vos problèmes de relations non exclusives auprès de vos amis proches qui sont très traditionnels, eh bien, ça risque de ne mal se passer. Ils vont peut-être tout mettre sur le dos des relations non exclusives ou ils ne vont pas du tout vous comprendre. Et donc, c'est important d'avoir des gens qui puissent vous entendre et vous comprendre et éventuellement vous conseiller lorsque les choses se passent mal.
Ouais, les événements dont parle Sacha, on en parle parfois en disant les cafés polis ou les soirées polyamoureuses ou les pique-niques polis, des choses comme ça. C'est pas forcément des gens qui sont tous parfaitement en polyamour et qui sont là pour trouver d'autres partenaires. C'est pas le cas, c'est vraiment, il y a une diversité de gens, il y a certains qui sont en polyamour depuis longtemps, il y en a beaucoup qui sont tout nouveaux, c'est des endroits qui sont éventuellement pas du tout destinés de rencontrer des partenaires. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des espaces de discussion qui soient safe, dans lesquels les gens puissent se sentir en sécurité, qui soient bienveillants, pour aborder des problématiques qu'on peut pas aborder ailleurs, quoi.
Bah, j'ajouterais que je conseillerais pas d'aller dans les café poly pour rencontrer spécialement des gens. Il existe des applications pour ça. Il existe plein de manières de rencontrer des personnes, donc concentrez-vous plutôt sur ça.
Et donc, ces manières nombreuses, par exemple, donc pour les applications, une application qui est très utilisée, probablement plus que les autres par les milieux polyamoureux, c'est l'application OkCupid. Il me semble que l'interface est en anglais. Il n'y a pas forcément énormément de gens si vous êtes dans une ville peu peuplée. Mais c'est une application qui, en tout cas, son interface permet complètement de s'afficher en tant que personne non monogame, de mettre des filtres sur le sujet, et où la communauté de gens qui est là est souvent plus ouverte à la question que si vous allez sur Tinder, par exemple. Mais il est aussi possible de rencontrer des personnes polyamoureuses sur Tinder, mais c'est probablement plus difficile que si vous êtes sur des applications dédiées, enfin dédiées, des applications qui sont plus faites pour ça, comme OkCupid.
Ouais, je me demande si c'est pas le cas aussi sur... Bumble. Je pense qu'on est, il y en a aucun de nous trois qui est très fort en application. Mais c'est vrai que il y a quelques années, quand moi j'utilisais, j'en ai utilisé un petit peu OkCupid, c'était vraiment l'application qui permettait ça. J'ai l'impression que c'est de plus en plus accepté dans les différentes applications que le polyamour se répand un peu, que ça commence à être un modèle de relation connu. Donc voilà, il y a des profils dans diverses applications qui s'affichent clairement polyamoureux, quoi. Ou ouvert à des relations non monogames.
Après, on avait déjà parlé des aspects d'étiquette. C'est pas parce que quelqu'un met l'étiquette sur lui-même de polyamoureux, qu'il va avoir les mêmes attentes que vous, qu'il est dans la même perspective. Le mot polyamour, il est aussi mal compris aujourd'hui. Donc, c'est bien que ces outils, ils existent, mais ne mettez pas directement votre confiance dans le fait que vous allez attendre exactement les mêmes choses parce que quelqu'un a mis la même étiquette que vous. Mm-mm.
Et moi, ce que je conseille, c'est que vous utilisiez une étiquette ou que vous le décriviez par vos propres mots, c'est d'en parler très vite, soit directement sur votre profil. Et ça, ça vaut aussi quand, lorsque vous rencontrez des gens physiquement, sans aucune intermédiaire par avant, mais de dire clairement que vous êtes intéressé par des relations non exclusives. Il peut y avoir l'envie de se dire, bon, c'est une pilule peut-être difficile à passer, peut-être que la personne, elle va pas apprécier, je préfère d'abord qu'elle m'apprécie, et ensuite, je lui dirai ça. Et en fait, autant le dire tout de suite, comme ça, si jamais c'est quelque chose qui lui va pas du tout, bah, personne ne perd son temps et il n'y a pas de déception, plutôt que attendre plus tard et de le dire, ah, au fait, je t'ai pas dit, mais j'ai déjà une copine et que du coup, ça a créé un malaise là-dessus et qu'il y ait déjà des attaches qui soient créées et que les gens aient perdu du temps, de l'énergie sur des choses qui, de toute façon, n'étaient pas compatibles. Il existe plein de monde sur Terre, sur les applis de rencontre, il y a plein de monde aussi. Autant filtrer les gens avec qui, c'est pas compatible dès le début.
Et bon, la question, c'est pas dire « Bonjour, je suis polyamoureuse et j'ai deux copains et demi ». La question, c'est plutôt, effectivement, ne pas cacher les trucs, en fait. Dire « Ah, alors moi, j'aime beaucoup utiliser le terme « un amoureux » ou « une amoureuse » et dire « Ah, bah j'étais au cinéma avec une amoureuse » parce que ça interpelle un peu. Les gens, ils sont « Ah, mais comment ça, une amoureuse, c'est ton amoureuse, du coup ?» Enfin, il y a vraiment un petit truc sur l'adjectif possessif qui met la puce à l'oreille. Et souvent, ouais, ça arrive vite sur le tapis, le fait que je puisse avoir plusieurs partenaires ou que je sois en polyamour. Donc, il y a des moyens un peu d'en parler sans vraiment dire « Bonjour, je suis polyamoureux, quoi. »
Oui, puis ça peut être des moyens détournés de dire, par exemple, de parler du polyamour comme ça, de l'amener dans une conversation, même si vous n'avez pas forcément envie. Si vous rencontrez quelqu'un dans une soirée, par exemple, vous dites « Ah tiens, je pourrais être intéressé par cette personne potentiellement ou je ne sais pas trop », d'amener le concept de polyamour sur la table, comme ça, ça crée l'idée, par exemple, de dire « Ah, j'ai écouté un super podcast qui s'appelle « À tes amours » et c'est comme ça que j'ai découvert OkCupid ». Ça peut être un moyen de faire passer l'idée du polyamour, de dire que vous savez que ça existe, sans forcément dire « Ah, c'est moi, c'est mon cas », mais de l'amener sur la table, et comme ça, la personne, elle se dit « Ah oui, ok, je sors du côté, la configuration par défaut, c'est que cette personne en face de moi doit être monogame, là, elle me parle de polyamour, donc la question se pose ».
Oui, il n'est pas question non plus, évidemment, d'entrer dans un truc de mensonge par omission où vous parlez de polyamour en cachant que vous êtes vous-même polyamoureux. Quoique, ça peut être acceptable de faire ça si vous êtes dans un endroit où vous savez pas si vous êtes safe Et si vous avez peur de vous faire attaquer d'une façon ou d'une autre, vous avez le droit de prendre la température comme ça. C'est pas full malhonnête non plus, vous pouvez avoir des raisons de le faire.
Donc dans cet épisode, on a vu beaucoup de choses, on avait pas mal de sujets importants qu'on voulait aborder. On espère qu'il sera pas trop chargé. Pour moi, l'essentiel de tout ça, c'est qu'il faut communiquer beaucoup, être ouvert à des changements de plan, puisque vous allez découvrir ce qui vous intéresse réellement, et essayer de vous demander justement qu'est-ce que vous voulez, vous, et pas juste suivre un modèle que vous vous êtes dit que c'était ce modèle que vous vouliez.
Moi, en conclusion, j'ai deux points, je pense. Je conseille vraiment d'avoir ce que nous, on appelle un radar, c'est-à-dire d'avoir vraiment un espace de communication que vous prévoyez à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un radar un jour, commencez peut-être le radar en vous disant « Ok, on va passer là 2 heures à parler et lundi dans 2 semaines, on refait la même chose. » quoi. Donc ça, c'est une première chose, ayez un radar. Et l'autre chose, c'est que je voulais dire, dans la relation, vous êtes censé pouvoir avoir la croyance que vous vous aimez mutuellement et que vous voulez que l'autre aille le mieux possible et qu'il veut la même chose pour vous. Et c'est vraiment à partir de ça que vous pouvez bâtir une équipe, être en relation de confiance et aller de l'avant, relever les défis qui vont se présenter.
Pour rebondir là-dessus, de mon point de vue, effectivement, quelle que soit la relation que vous souhaitez construire, que ce soit une relation monogame, une relation amicale ou une relation sans réellement d'étiquette, votre but, c'est de vous sentir bien et que l'autre se sente bien. Donc, gardez de la bienveillance, non seulement vis-à-vis des autres, essayez de leur faire un espace, qu'ils se sentent bien eux aussi. Et allez-y, étape par étape, vous allez vous tromper, c'est pas grave. L'idée, c'est de pas cacher les choses sous le tapis et d'essayer d'avancer ensemble.
Voilà, bonne exploration.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.